Cet été, le boulevard Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal avec la programmation la plus avant-gardiste en ville. La fine équipe, Salut C'est Cool, Superpose, Ryan Playground, Robert Robert, Frame, Mansfield T.Y. et bien d'autres. Du 21 au 31 juillet, on vous fait découvrir la relève électro, ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Pop 105, en fait, le 105e épisode de Pop en stock radio. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et aujourd'hui, c'est ce qui est particulier quand on s'attaque à des sujets auxquels on tient beaucoup. On est toujours un peu fébrile, on veut vraiment pas manquer notre coup parce qu'on a une heure pour parler d'un sujet pop qui est jamais vraiment disparu de l'actualité, mais qui est, à mon avis, peut-être un objet sacré. Du moins, la recherche que j'ai faite pour l'émission m'a un peu plus en plus convaincu que c'est un objet sacré. Et pour ça, j'avais vraiment besoin de quelqu'un d'être ici. Donc, je veux vraiment remercier Rachel d'être là. Bonjour!
Bonjour! Ça me fait plaisir d'être là, pour vrai!
Non, parce que ça arrive une fois de temps en temps, à pas penser qu'on a... On a attaqué des sujets, je suis comme... Hey, plante-toi pas sur ça, là.
Ça serait le fun.
C'est pas qu'il y a de sujets que ça me dérange de me planter, mais celui-ci, bon, ça a nécessité la relecture de 6 livres, la réécoute, en fait, de un long métrage, 2 fois, parce qu'il y a un director's cut, et 2 téléfilms de 6 heures. Oui. Ainsi que, hier soir, à la dernière minute, un documentaire portant sur un film qui n'existe pas.
C'est quand même particulier, quand on y pense 3 secondes, tu sais, de faire un documentaire sur, dans le fond, un objet qui a jamais existé, mais avec un storyboard qui a été distribué en masse.
T'sais. C'est ça, exactement. Donc, le film n'existe pas. En fait, il y a seulement le film qui n'existe pas.
Exactement.
L'objet central est disparu, mais toutes les traces existent. Ça fait que tout ce film-là non résolu et l'œuvre duquel il découle est un espèce de mystère culturel, moi je trouve. Je pense pas que je l'ai mentionné encore, c'était quoi? Je trouve ça le fun. Un espèce de comme, essayez de deviner de quoi qu'on va parler.
Ouais, c'est ça.
On va parler de Dune, de Frank Herbert. Je crois que c'est un auditeur qui nous l'avait suggéré. Je crois que j'avais pris la balle au bon, puis j'ai dit, bon, ça va me permettre de relire.
Oui, avec enthousiasme, je me rappelle, on a un groupe Facebook, on prépare les émissions, et était, oh, je vais relire les choses!
Yes,
avec joie.
Quand je réussis à le faire, ça va très bien. Quand je réussis pas à le faire, ça va pas si bien que ça. Mais donc, c'est ça pour notre 105e émission. On vous encourage, on vous invite à embarquer sur l'ornithoptère et on va aller explorer un des plus importants succès commerciaux de la littérature science-fictionnelle fantastique.
Absolument.
Qu'on a comme un peu regardé avant pour être certain qu'on se leurrait pas par rapport à ça. 20 000 copies.
20 millions.
20 millions, oui, 20 000. 20 000, un succès. Franchement. Au Québec.
C'est fantastique, ouais. Ouais, c'est ça. Mais pas au Québec, c'est dans l'UQAM, hein? Ouais. Il y a plus de gens que ça.
Ouais, c'est vrai. Donc, 20 millions de copies pour la seule, en fait, pour le premier roman.
Oui.
Pour la première, en fait, pour même la moitié du premier cycle, parce que Dune et 6 romans tels que écrits par l'auteur original Frank Herbert. Ensuite, ça a été repris par son fils, et là, c'est une épopée
incroyable, là.
Assez immense avec la part de son fils. Nous, on se concentre, si pas sur les 6 premiers romans, même sur les 2 premiers romans, et peut-être un peu sur...
Ça empiète un peu sur le troisième.
Ouais, mais avant le spreading, parce que le spreading est quand même un moment assez compliqué. Pour les gens qui connaissent très seulement le film, il y a un moment où tout explose, en fait, où on constate les limites on constate les limites de la pression. On constate les limites de l'environnement suite à la pression qui est mise par la game sociopolitique et tout explose. s'en suit un événement qui s'appelle The Spreading, je l'ai lu en anglais malheureusement, où tout le monde sera dispersé, le dispersement oui. à travers la galaxie. Et les deux derniers livres sont, ben, en fait, les deux derniers livres de Frank, c'est suite au Spreading. Donc, on oui. a une mutation de la base que l'on connaît dans les quatre premiers romans. Donc, ça, très rapidement, c'est ça. Je suis un peu déjà rentré dans les origines. Parce que quand oui. on parle de pression, pression sociopolitique sur un environnement et un écosystème qui ne pourra pas tenir, on voit un peu d'où c'est que ça vient. On voit un peu que Dune est d'abord avant tout une construction science-fictionnelle sur des bases très, très réelles.
Absolument. Donc, en fait, plusieurs ont déterminé le fait que Dune, comme telle, c'était une œuvre qui était quasiment précurseur d'une vague écologiste. Plusieurs mentionnent justement que c'est une œuvre ben écologique importante là, pour ben plusieurs aspects, entre autres le fait que il y a un certain souci de par rapport à l'homme qui serait plus puissant que la machine ou qui aurait quelque chose de
ben c'est cette idée là de ne pas pouvoir ouais, c'est la voie naturelle contre la voie construite.
Exactement,
contre la voie industrielle.
Ouais.
Il y a quelque chose de ça dedans. Il y a un très, très bon article que tu m'as envoyé hier qui provient d'un périodique que tu as l'air d'avoir comme développé une affection énorme.
Oui, 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 parce que j'ai découvert ça justement à cause de l'émission. Je suis comme, mon Dieu, mais quelle chose extraordinaire! Ça s'appelle Nautilus. C'est un périodique justement sur la science et la technologie. Et l'article donc en question, c'était sur les liens qu'on pouvait faire entre la désertification en Californie mm-hmm. et Dune, puis à quel point justement plusieurs des choses qu'on voit dans Dune, dont par exemple la captation de gouttes d'eau mm-hmm. Du brouillard qui était déjà là dans la planète en question, puis qui peut être appliqué en Californie, puis là, ils expliquent justement
de façon très très intéressante parce que oui. on, cette science-fiction là qu'on utilise comme inspiration pour des technologies. Il montre très bien dans cet article-là que là, tous les filets de captation de gouttelettes, comme tu dis,
oui.
commencent à être plus nécessaires que jamais.
Exact.
Mais parce qu'on ne peut pas inventer cette affaire-là hors de nulle part, mais là, ces scientifiques-là, en fait, lient d'une puis essayent de reproduire...
La chose, vraiment, ouais. De manière précise, de recueillir l'eau aussi à travers certains canaux, puis de le faire vraiment comme dans la série. Ça a été assez fascinant à lire, en fait. J'ai vraiment eu...
Ça l'est absolument. Je viens de constater qu'on n'a pas... pour les gens qui connaissent pas Dune, c'est un peu spécial. Bienvenue à l'émission.
Allô!
mais il faut quand même le mentionner que c'est ça. C'est un récit, c'est une épopée, en fait, de grande famille qui se déroule sur une planète qui s'appelle Arrakis, qui est, comme tu dis, en désertification complète.
Oui.
Et c'est l'interaction entre cette civilisation-là qui est... Moi, je trouve ça tellement fou comme idée d'avoir un empereur intergalactique qui assigne, un peu comme des régents qui envoient des gens dans des régions. Bon, s'il y a un roi qui daigne qu'une famille s'est bien comportée ou a bien développé une région, ben il l'envoie sur une autre, comme il l'enverrait dans Dune, il l'envoie sur une autre planète. Le cycle de Dune commence avec une nouvelle famille qui se fait donner la responsabilité d'Arrakis
oui.
Et qui, eux, doivent interagir avec les peuples aborigènes, qui sont les Fremen, qui, eux autres, ont une espèce de... Ben, en fait, ont une technique de survie dans le désert qu'on oui. est en train de mentionner présentement par rapport à l'eau. Il fallait quand même le dire que dans
c'est,
Dune...
C'est comme on avait fait le processus inverse.
Tout est inversé avec moi, surtout quand je suis stressé. Mais c'est ça, dans l'article, il mentionne très bien que Frank Herbert, en 1957, avait été engagé par le département d'agriculture aux États-Unis pour...
En Oregon,
oui. Ouais, pour parler des dunes de sable, l'expansion des dunes de sable sur... on the European beach grasses on the coast of Oregon, comme tu dis. Et c'est à ce moment-là qu'il a alimenté une réflexion sur comment est-ce qu'on traite notre planète, commencer à voir tout ça comme un immense problème écologique. Ça, c'est une affaire que j'ai appris, je trouve ça vraiment cool, c'est que malgré que Dune est le titre parfait,
oui.
il a été choisi parce qu'il est phonétiquement très très près de Doom.
Ah ben oui. Oh!
Et que Doom et Dune sont essentiellement deux mots interchangeables pour Frank Herbert parce qu'il voulait faire un manuel d'éveil écologiste.
Oui.
En fait, de lire ce livre-là, force, peut-être pas, mais place des idées écologiques chez des écologistes chez les gens. On est
dans une certaine forme, fait que les gens se conscientisent à la chose.
Oui, c'est ça, parce que là, on parle du début des années 70, là, c'est pas fin des années 60.
C'est ça, mi-60, en fait, ça a été publié en 65, le premier.
T'as raison, ça fait que c'est bien avant tout, là, c'est...
Oui, pensons-y, tu sais, le jour de la Terre, c'est en 70, donc c'est vraiment avant ça, t'sais.
Et tu mentionnes le jour de la Terre, mais Robert France, qui est un professeur de Watershed Management à Dalhousie University, crédite, en fait, Dune comme étant une des grandes influences de la création de Earth Day.
Oui.
Il a même été le premier keynote en 1970 à l'ouverture d'Earth Day. La réaction populaire face à Dune a comme peut-être encouragé des organismes à s'orienter vers l'écologisme. Ça fait que c'est très intéressant que un livre qui était... Ben en fait, le projet du livre est accompli. Ça, oui. C'est fort. C'est très fort qu'une science-fiction qui n'est pas du tout, en fait, c'est pas une science-fiction humaniste, c'est pas une science-fiction qui a des référents terrestres.
Totalement extraterrestre, c'est totalement dans l'imaginaire, mais que ça a eu un impact réel, concret sur l'écologisme puis le militantisme écologique tel qu'on le connaît.
T'sais. Oui, exactement, sur la conscience écologique.
Tout à fait.
Je pense pas qu'il pourrait espérer mieux par rapport à un livre.
Probablement pas.
Ouais, comme d'avoir dit qu'un œuvre de fiction a jump started, m'excuserai le mot là, mais a comme activé ce sentiment là, c'est très très fort.
Ouais.
Et va de même en fait, puis je sais que tu brûles d'en parler. va de même pour le projet de Alejandro Jodorowsky, qui a été très souvent, en fait, c'était qu'est-ce qu'on appelle Stuff of Legend, là. C'était vraiment plein de gens qui parlaient de ça. Là, ça a été vraiment cimenté avec la sortie, la création du documentaire Jodorowsky's Dune, où là, on a l'histoire, puis on comprend. Parce que bon, ça avait déjà été dit, on savait que Salvador Dali, on savait que Moebius venait de là, on savait qu'Orson Welles, Giger, Dan O'Bannon, toutes ces personnalités avaient déjà officiellement été inscrites dans cette histoire non officielle du Dune de Jodorowsky. Mais là, le documentaire est comme « Oh, OK, t'as un A à Z, on comprend absolument tout. »
Oui, vraiment, c'est vraiment un documentaire, justement, qui l'expose. Où est-ce qu'on entend Jodorowsky, où est-ce qu'on entend Michel Sédoux, entre autres, la femme de Dan O'Bannon.
Excuse-moi, j'ai donné un coup de poing dans
le... Oui, non, j'ai vu, j'essayais d'avoir aucune réaction.
Mais t'as ri! Tu ris tout le temps, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
La veuve de Dan O'Bannon.
Oui, c'est ça, la veuve de Dan O'Bannon est là.
Giger, qui est un troll
absolument.
Incroyablement inquiétant.
Oui.
C'est juste qu'il...
T'as quasiment peur.
Ouais, puis son allemand est vraiment non conventionnel, très guttural, malgré que l'allemand est déjà une langue très, très, très gutturale, mais là, il est... Il hurle creepy, là.
Ah non, c'est quelque chose. C'est particulier. Ça fait peur. Moi, j'aurais ça dans le fond de mon sol, puis boy.
Ben, l'homme et l'art, essentiellement, c'est ce qui est très intéressant dans le documentaire. Je suis sûr qu'il a déjà fait des apparitions publiques avant ça, mais je l'avais jamais vu.
Ouais.
Mais là, tu sais, l'inquiétude de l'art de Giger émane de l'homme, où l'homme a été en quelque sorte influencé ou corrompu en quelque sorte.
Puis même
c'est comme tabarnak.
non, puis même dans la mise en scène de sa présence, on le voit dans un studio très sombre justement, puis il apparaît comme quasiment de nulle part.
Mais c'est un documentaire assez complet.
Absolument. C'est un documentaire qui est très bien fait, en fait, qui est une histoire en soi. C'est ça qui est fascinant avec ce documentaire-là, c'est que, ben, à la limite, bon, moi, j'ai lu le livre, là, quand même, mais je pense qu'à la limite, quelqu'un qui aurait pas lu le livre, quelqu'un qui en aurait pas entendu parler pourrait embarquer complètement dans cette histoire-là, cette histoire de ce documentaire-là, tiré d'un film qui a jamais existé. parce que la structure du documentaire est super bien faite, parce que Jodorowsky est quand même un conteur extraordinaire, là.
Oh, oui.
Tu sais, passionné.
Charismatique, comme c'est pas croyable.
Absolument,
là.
Là
magnétique, là.
Oh, ce qui a un charme incroyable, ce bonhomme-là, puis c'est ça, puis de la façon dont le documentaire est fait, c'est un documentaire vraiment de manière chronologique. Alors, tout a commencé avec, c'est vraiment ça, là, c'est comme, c'est un quasiment un « il était une fois », structure classique, il était une fois, Jodorowsky avait eu une idée, il a fait tous ses films, La Montagne Sacrée et tout, et là, tout à coup, oh, il a eu envie de faire Dune, et en plus de la façon dont il explique la chose, c'est « j'ai eu l'éclairage de faire ce film-là sans avoir lu le livre ».
Ouais, là, c'est là où j'ai un peu... J'étais un peu comme... Ben non, mais ça, c'est encore les méfaits d'avoir préparé une émission 6 mois à l'avance, là.
Oui.
Mais quand il dit, tu sais, qu'il est rendu dans ses ambitions, il est suite à Holy Mountain, puis là, il rencontre Michel Serres, puis « qu'est-ce que tu veux faire? » Puis il crie Dune sans même avoir lu le livre. J'étais comme « OK, mais il y a rien qui a été cherché. » C'est juste que c'était le plus important, c'était le best-seller de l'époque.
Absolument.
Fait comme, c'est à peu près l'équivalent de, pour faire des parallèles assez grotesques, là, mais Nicholas Winding Refn qui tomberait sur Fifty Shades of Grey actuellement.
Oh, oui.
Ça pourrait faire quelque chose. Ouais, ça serait quelque chose de vraiment cool, là, whatever. Okay.
mais c'est vraiment ça. Puis la différence est très drôle parce que j'expliquais ça hors d'onde, mais moi, j'ai vu le film au cinéma. Puis malgré le fait que j'avais lu le livre et tout, moi, j'avais complètement embarqué dans l'histoire. Parce que je l'avais vu au cinéma, sur grand écran et tout ça. Puis Jean-Michel me disait que lui, il l'avait vu justement là.
Hier soir,
tu sais. Moi, je l'ai revu pour l'émission. Puis justement, en le revoyant pour l'émission, j'étais capable d'avoir un œil un peu plus critique sur la chose. Mais l'émerveillement, je me suis rappelé de l'émerveillement que j'avais ressenti quand même quand je l'ai vu au cinéma.
T'sais. Parce que c'est vraiment, ma faute, c'est de trop tenir au matériel d'origine.
Oh oui.
C'est d'avoir des phrases comme ça puis de faire comme, OK, mais t'étais pas vraiment en train de vouloir adapter Dune. Ton projet est émerveillant. Le projet l'est véritablement.
Absolument.
Quand Jodorowsky explique qu'est-ce qu'il voulait faire avec le film, ouais, je peux comprendre que t'sais, c'était, ambitieux, c'est un mot. c'était cosmique, en fait.
Absolument.
C'est ça.
Ben, c'était sa volonté, là. Tu sais, vraiment, il parlait de guerrier spirituel quand il a engagé son monde, tu sais. Puis il y a un côté très, justement, très spirituel, très ésotérique à ça. Tu parlais justement du fait que il avait pas lu le livre. On constate carrément quand il en parle que le matériel original, il s'est pris des grosses libertés avec. Là,
énormément, ouais.
Pour
faire dire qu'est-ce qu'il voulait dire.
Absolument, pour avancer ses propres visions, tu sais.
Ouais, mais au final, c'est drôle parce que, encore en préparation, pendant qu'on est en train de discuter de ça, autant que Dune est quelque chose, pour Herbert, de très matérialiste, très écologiste, faut faire attention à notre Terre. Jodorowsky, lui... Malgré qu'il a pas lu, mais enfin, c'est sûr qu'il a lu le livre inévitablement, là. Mais
malgré le fait qu'il l'avait pas lu au départ quand il a eu l'idée, on va dire ça de même.
Ouais, exactement, parce que quand même, c'est pas comme s'il avait tout fait ça sans même briser la couverture, là, la reliure. Mais le projet de Jodo est parfaitement complémentaire avec celui de Herbert, sauf que lui essaie plus à faire pour l'âme.
Oui.
C'était la préservation, même l'ouverture, l'expansion de l'âme humaine.
Oh, totalement.
C'est pour ça qu'il fallait qu'il change un peu l'histoire.
Oui. Ah oui, un peu pas mal. On pense à la fin, entre autres, du film, de la version de Dune, version de Jodorowsky, que quelque chose de quasi christique, là, c'est vraiment...
C'est ça, là.
Tu sais, où est-ce que, tu sais, t'as Paul qui est carrément, tu sais, sacrifié, là. Il manque juste la croix, là, à peu près, tu sais.
Mais il sacrifié pour, en fait, ça, c'est quand même quelque chose qui est présent chez Herbert.
Oui.
C'est non pas le sacrifice, mais comme, ben, en fait, je l'ai déjà mentionné en introduction, c'est drôle, mais le spreading, la diffusion.
Oui, oui. Oui, oui.
Paul se sacrifie pour qu'une pièce de lui entre en tout le monde et
oui.
fasse de tous ces guerriers spirituels que tu mentionnais.
Oui, oui.
C'était ça, c'était qu'il voulait que dans le film, il y ait un sacrifice qui vienne poser une graine, là, créer une germe chez chacun des auditeurs.
Oui.
Et de faire cette immense cabale de guerriers spirituels.
Oui,
c'est
oui.
Quand même quelque chose.
Non, mais c'était vraiment ça le terme, Jean-Michel. Oui, c'est ça que tu as dit.
Mais c'est ça, non, mais c'est tout à son honneur.
Absolument.
Mais il y a comme, je me rappelle plus, c'est qui a jugé qu'il ne l'était pas un guerrier spirituel? C'était assez intense. Ah, ben c'était un concepteur d'effets spéciaux. Il a failli... il a balayé Pink Floyd de la main parce qu'il considérait qu'il n'était pas à la hauteur de...
Oui, je me rappelle pas si j'avais pris son nom, ouais. Genre, ou... pas sûr.
Le concepteur d'effets spéciaux.
Oui, le concept. Oui, ouais, c'est ça. Celui-là. Puis j'ai... Ça, j'avais, il me semblait que j'avais pris son nom en note, puis je regarde mes notes, puis non!
Ça pour dire, Jalowski, à première rencontre de cet homme-là, a évalué qu'il n'était pas un gangster. Ce qui fait que j'ai peur de rencontrer Jalowski, puis j'ai peur de qu'est-ce qu'il va dire sur moi.
Oh, oui, il va te regarder droit dans les yeux, Jean-Michel.
Ben, c'est ça l'histoire de Dan O'Bannon aussi. Je pense que Dan O'Bannon raconte un moment de d'ensorcellement, ça va être ensorcellement.
Non, oui. D'envoûtement.
D'envoûtement, merci beaucoup. C'est ça que je cherchais. Assez pété de
oui,
comme.
Oui.
Puis là, je regardais dans les yeux, puis il y avait des lignes. C'est... All right.
C'était quelque chose.
Ouais, tout ça pour dire, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Puis je mentionne pas ça comme un espèce de qualificatif vide. Là. Ça a été quelque chose de au-delà de l'ordinaire dans le panorama cinématographique terrestre. Absolument. D'avoir le John Jodorowsky. À la fois, tu sais ça, les costumes faits par Jean Giraud, Moebius,
oui.
Le baron Harkonnen interprété par Orson Welles, le réalisateur de Citizen Kane, Touch of Evil, l'empereur Dieu qui est interprété par Salvador Dalí, et sa muse,
oui,
qui aurait joué Jessica.
Ah oui, c'est ça, oui, oui.
Bon, Dan O'Bannon qui s'occupe du... script, je pense.
Ben, il s'occupe à la fois du script et d'une partie des effets spéciaux. O'Bannon, puis l'autre partie du storyboard avait été faite par Moebius, justement.
Ouais, avec du design par le troll.
Ouais, oui.
Parent, de Giger.
Giger, ouais. Oui.
Bon, ça dépend comment on le prononce.
Lui,
le plus important de tout, Paul, interprété par son fils, Brontis
oui.
Jodorowsky,
oui.
Qui suit un entraînement de 2 ans d'arts martiaux pour être capable de se... En fait, devenir un guerrier spirituel, est entraîné par son père dès l'âge
n'est-ce
de 12
pas?
Ans, être
ben
un
oui.
guerrier spirituel pour
être un guerrier
en jouer
spirituel
un.
Pour pouvoir se préparer à la chose. Il y a... Plus j'en parle, plus j'ai vraiment l'impression que finalement, il est embarqué dans une secte. C'est incroyable.
Ben, oui, c'était peut-être juste la nécessité pour l'œuvre, tu sais, de faire une cohésion spirituelle et holistique pour qu'on embarque tout dans cette espèce de grande arche puis qu'on fasse. C'est weird. Comme moi. Ouais, OK. c'est très. Comment est-ce que je peux dire ça? C'est que ça nous amène ailleurs par rapport au John de Herbert parce que ces trucs-là. En fait, le cycle de Frank Herbert est quand même très spirituel, mais toujours dans une idée très concrète. Il y a une concrétude à la spiritualité à l'intérieur du monde de Dune, notamment avec les Bene Gesserit, qui n'est pas aussi hallucinée que celle de Jodorowsky. Ça, c'est, non, mais elle est imaginaire, ouais. Mais le...
C'est nettement moins pété, c'est nettement moins éclaté. Il y a vraiment une cohérence là-dedans, une cohésion
ouais,
aussi.
Mais la religion interne de Dune est quelque chose de très austère, très ouais. contrôlé, très discipliné. Oui. C'est ça le mot que j'ai. Malgré que Jodorowsky est quelqu'un de très discipliné, Herbert avait comme une autre façon d'aborder tout le registre du spirituel à l'intérieur de Dune. Et t'es-tu correct pour Jodo?
Oui.
T'as fait le... Ouais?
J'ai fait le tour okay. pas mal de ce que je voulais dire.
Une des choses qu'il a fait pour l'œuvre, qu'il a fait pour la rédaction de Dune, puis pour la création de cette espèce d'univers spirituel-là, c'est qu'il a été s'inspirer d'un un peuple pré-sémitique que l'on nomme les Nabatéens. En fait, c'est encore ton article de Navigator?
Nautilus.
Nautilus.
Le Nautilus Magazine.
Qui le mentionne, en fait, qu'il y a énormément de parallèles qui existent entre les Fremen, le peuple autochtone de Dune, et ce peuple Nabatéen-là. Puis c'est ce qui fait... C'est drôle, j'étais chez des amis à Toronto la semaine dernière, dont un qui est un grand, grand, grand fan de Dune. Puis que lui aussi, c'est, étrangement, m'a raconté des espèces de... Où il y a, je pense que lu les 6 en un mois ou un truc comme ça.
Oh oui, mais moi, je me rappelle justement, tu sais, je te racontais hors d'onde que j'avais lu la chose à 14 ans, mais je m'étais claqué ça. Je m'étais claqué ça en quelque chose comme 3 mois, là, ah, 2-3 ouais. mois. Là. Oh, oui, j'étais fasciné par la chose.
Ben, il y a de quoi, c'est ça. Puis ça.
C'était vraiment un page-turner, puis bon, j'habitais loin de mon école secondaire. Fait que j'ai eu le temps de lire ça avec joie.
Ben, bref. C'est ça, François racontait, c'était comme une perte d'emploi qui avait en sorte qu'il était comme totalement libéré. Pour pouvoir s'y donner. Mais m'exprimait qu'il y avait une forme de ouais, c'est ça, de d'hallucination. Il a comme vraiment piqué pendant qu'il lisait, puis il est tombé dans un deuxième registre, un second registre, qui est, à mon avis, peut-être dû à ce fait-là que Frank Herbert a vraiment été s'inspirer de quelque chose qui est véritable, mais qui l'a décontextualisé. Donc, la vérité spirituelle qui existe dans le roman est quelque chose qu'on est capable de dans l'inconscient collectif humain, on est capable de se connecter, mais il est amené ailleurs, donc on doit le regarder comme étrange, mais on n'est pas capable de nier le sentiment véritable qu'il y a dedans.
Oui.
Un autre truc très important, à mon avis, par rapport à ça, c'est que puisant dans la mythologie ou dans le comportement des Nabatéens, il y a énormément de termes musulmans arabes qui sont utilisés dans Dune. Et ici, je pense qu'il y a un truc de génération qui est important à mentionner, c'est que pour quelqu'un, par exemple, comme tu disais, à 14 ans, qui lit le livre, qui est peut-être pas entièrement familière avec tout le registre des mots du Coran, utilisés dans le Coran, ou des principes utilisés dans le Coran et tout, ces mots-là peuvent passer comme des créations exotiques.
Absolument, comme totalement une invention, comme dans le cas du Seigneur des Anneaux, où est-ce que c'est une langue qui a été bâtie pour le Seigneur des Anneaux. Et donc, si tu lis ça, effectivement, moi j'ai lu ça à 14 ans, c'était à la fin des années 90. À la fin des années 90, on n'entendait pas autant parler des pays arabes ou quoi que ce soit, donc ça pouvait passer totalement comme si ça avait été inventé pour le livre.
Oui, c'est ça. Puis c'est des mots qui, comme tu dis maintenant, sont tellement utilisés.
Absolument. Ben en fait, tu sais, juste l'écart de ça, je veux dire, si j'avais lu l'œuvre à 17 ans plutôt qu'à 14, à 17 ans, donc c'était justement au tournant du 11 septembre 2001, c'était en 2001 en fait que j'ai eu 17 justement, si ça, j'avais lu ça en 2001, ça aurait été totalement autre chose, tu sais, j'aurais à ce moment-là compris peut-être plus, il y aurait une, ben c'est pas qu'il y avait pas une résonance avant, mais j'aurais pu faire des liens de manière beaucoup plus évidente, tu sais.
Oui, exactement, puis c'est ce qui fait que le texte est particulièrement riche, parce que maintenant on est très familier avec ces termes-là.
Tout à fait.
Et la décontextualisation, la défamiliarisation nous frappe d'autant plus.
Oui.
Ça devient comme un espèce de « wow, je m'attendais tellement pas à me faire parler de ça ».
Oui.
Tu sais, c'est un peu, je te dirais comme un exemple à la volée comme ça, c'est les gens qui font les lectures radicalisantes de Star Wars. Cette idée-là que le parcours de Luke Skywalker est pas très loin d'un éveil à la radicalisation.
Absolument.
C'est un peu ça quand t'es en train de lire Dune. Tu fais comme, OK, ben les Fremen ont cette position-là. Ils sont les détenteurs des droits de la Terre.
Ouais.
Les gens les plus adaptés. Il y a la colonisation qui se fait, qui est pas du tout adaptée, qui est toujours au poignet dans une bataille interne. Le message, à mon avis, Dune est comme beaucoup plus pertinent. Message politique actuel.
Absolument. Il est beaucoup plus pertinent. Il y a plein de liens sociopolitiques qu'on peut faire avec l'état actuel de la guerre contre le terrorisme.
C'est ça. Mais une des affaires, puis là, on va partir en musique, mais un des trucs qui est très, ben en fait, pour moi, qui est criant, puis c'était une des raisons pourquoi je voulais autant faire l'émission, c'est que le peuple nabatéen était, en fait, la société nabatéenne était matriarcale.
Oui.
Puis on a découvert ça récemment, puis ça rentre dans un des grands, grands thèmes, à mon avis, Dune, qui est la place des femmes.
Oui.
La place des femmes dans Dune, elle est extrêmement importante et intéressante. Fait qu'on va aller en musique pour se donner une petite pause. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je suis d'accord avec
Excellent.
Ça.
Excellent. On va aller écouter une belle suggestion de Paul, le directeur de la programmation de Choc. On va aller écouter Arrakis Walk de Paul Atreides ou Atreides, je ne sais pas comment vous prononcez. Puis on va parler des femmes dans Dune.
is a very delicate time. Know then that this is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice mélange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Pop en stock et j'avais pas le courage de terminer la dernière pièce parce qu'elle était trop bonne. C'était vraiment, vraiment bon. Paul Atreides, Arrakis Walk. Vous écoutez une émission qui est entièrement consacrée à Dune.
À Dune.
Puis, ouais, merci des mots de réconfort pendant la pièce musicale parce que je suis comme, j'ai le goût de parler de tout. Et on en était en fait pour la raison principale de l'émission, outre la proposition qui a été faite, c'est vraiment j'ai été épaté par la place des femmes dans Dune. C'est au-delà de toute cette idée-là d'un progressisme ou d'un féminisme démonstratif dans l'œuvre, il y a quelque chose de très important sur la représentation des femmes dans le livre.
Ben oui, tout à fait. Ben ne serait-ce que avec les Fremen comme tel, est un peuple justement. Ben sont un peuple. En tout cas, peu importe. Ils sont whatever. Oui, je suis prof de français.
Tu l'as.
Merci. Sont un peuple qui consacre justement, qui amène les femmes à occuper des rôles importants d'un point de vue religieux aussi. Elles ont un rôle important à jouer. Donc,
Puis c'est même. C'est bien intéressant. En fait, je vais le mentionner parce que, bon, on n'a pas pensé que vous savez qu'il y a un portail d'articles scientifiques qui sont publiés. Oui. Tristan Béran a écrit un... Ouais, tu l'as.
Oui, je l'ai, puis je l'ai lu.
Il est vraiment bon.
Il est excellent.
Un article qui s'appelle « Images de femmes, images de guerrières dans Dune » de Frank Herbert, où il mentionne, puis c'est le seul extrait que je vais vous lire, le reste, il va falloir que vous ayez sur le portail pour le lire par vous-même. Parce
pas
que... par
stock.ca!
La femme... Attends. Dune mettra en avant la femme comme image guerrière, et je cite, non pas guerrière uniquement comme un homme pourrait penser qu'elle le serait, toute de force et de combat pour assurer sa survivance, mais tout d'abord comme l'image d'une Athéna, alliage de savoir et de pouvoir, de respect et de sacrifice, avant de voir que cette forme de violence pure est également une des caractéristiques de certaines des femmes du cycle, par l'image des honorées matriarches ou les honored matresses dans la version anglaise. Les femmes dont il va être question ici ne sont pas armées au sens conventionnel du terme. C'est sûr, ça devient important. Les armes qu'elles possèdent ne sont pas visibles, mais inscrites dans leur corps même, dans le contrôle et l'utilisation de ce dernier, afin de pouvoir aboutir à leur fin. Puis là, ici, je le mettrai en caractère grand. Elles ne sont pas armées d'armes physiques, car leur physique est leur arme. Et c'est autour de cette transposition que cette étude va structurer. Donc, allez lire l'étude, parce qu'elle est extrêmement intéressante, mais elle est aussi très criante. Un des trucs que Tristan Béran souligne, c'est l'apparente disparition, disparition, mais une absence totale de l'étude des femmes dans le canon de Dune. Oui. C'est pas quelque chose, en fait, on a beaucoup plus été regardé, c'est sûr que ce qu'on a
mentionné. Côté écologique, le côté spirituel, d'ailleurs, Tristan Béra, sa thèse de doctorat, c'est sur le destin chez Dune. Ouais, j'en ai commencé à en lire quelques extraits, justement, de la chose, parce que ben justement, en parlant de, tu sais, avec la lecture de l'article de Pop en stock, puis je me suis demandé, bon, est-ce que de voir les autres études, puis je suis tombé sur sa thèse de doctorat sur le destin, puis
je vais lire ça parce que ça fonctionne.
C'est super intéressant,
bien.
Donc c'est ça, puis se concentrant principalement dans les personnages sur, ben Paul lui-même, mais surtout sur Leto, le deuxième, le fils de Paul, qui se concentre vraiment là-dessus, puis sur Paul et Alia, dans le fond, les enfants de Leto. Puis
Leto 2, le fils de Paul.
C'est ça.
Et les enfants de Leto, Paul et Alia. Ou Ganima, qui est la fille de Paul.
Exactement.
Et Leto 2, oui.
Et Leto 2, voilà. Donc vraiment, cette lignée-là, qui se concentre principalement là-dessus.
Puis qui est forte de destinée, ben oui.
Absolument, tu sais, que dans le fond, c'est que cette destinée-là, tu sais, c'est y a à la fois quelque chose de contraignant, mais en même temps, quelque chose avec plein de possibilités. En tout cas, c'est fascinant à lire. Moi, j'ai lu seulement, évidemment, l'intro et la conclusion, parce que, j'allais pas me taper 300 pages pour venir ici, mais sérieusement, j'ai lu les chapitres de cette chose, c'est absolument fascinant.
Ah, ouais. Ben ça va être de la lecture de spécialisation à ce point-ci parce que ça doit être super intéressant, en fait, parce que c'est ça, cette lignée-là, elle est extrêmement lourde de destinée. Mm-hmm. Et pour venir au point des femmes par rapport à ça, elle est d'abord et avant tout de par des raisons de matrice. Puis ça, dans la description, on l'a quand même pas dit, mais il fallait qu'on arrive à ce point-ci pour pouvoir le décrire correctement. Jessica Atreides est une Bene Gesserit, en fait, qui a devancé les plans de son ordre religieux. En fait, les Bene Gesserit, c'est un ordre religieux extrêmement austère qui lègue d'importants pouvoirs aux femmes.
Absolument.
Uniquement aux femmes, en fait. Il n'y a pas de Bene Gesserit masculine. Ça leur convie des pouvoirs exceptionnels, mais ils ont une énorme rigueur de vie qu'ils doivent respecter. Elle devance des plans pour l'arrivée d'un personnage qui s'appellerait le Quisac Hétrarch, qui est le seul homme, l'enfant qui porte le pouvoir, en fait, qui serait le seul Bene Gesserit masculin, chose qui défie la règle que je mentionnais tantôt.
Oui. Le truc, qui est carrément désigné par les femmes.
Oui, exactement. Oui. Mais eux, ils ont tous, depuis, dans un espèce de comme eugénisme sélectif, de comme toi, tu vas te retrouver avec lui, puis tu vas le marier, puis cette lignée-là va faire ça. L'ordre des Bene Gesserit avait prévu l'arrivée d'un Quisac Hétrarch, mais n'avait pas prévu que c'était pour être Paul, parce que Jessica a joué un peu avec le destin. Le truc, c'est que Jessica sera la mère, l'impératrice de Dune pour un instant. La mère du Quisac Hétrarch sera aussi la mère d'une très importante et très forte Bene Gesserit qui potentiellement aurait été la mère de la véritable mère du vrai Quisac Hétrarch. En fait, Ganima avait énormément de trucs dans sa destinée qui s'en venait. Ça a été un peu coupé par Jessica. Et aussi, Jessica, puisque sur Dune, on a quelque chose qu'on n'a pas non plus mentionné depuis le début de l'émission, mais qui a été mentionné à outrance dans la pièce musicale, c'est correct, le spice mélange,
oui,
qui est la ressource naturelle.
Ultra recherché, c'est la raison de la guerre.
Oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'Arrakis est la seule planète qui a les vers qui permettent à cette terre-là de développer dans le sable le spice mélange, qui est une potion qui mène à la fois à la communion complète avec l'univers et le cosmos, et aussi une forme d'immortalité. Donc, je vous laisse deviner que c'est quelque chose d'extrêmement primé. Jessica, lorsqu'elle portera Alia, boira une odyssée du spice mélange, et il y aura communion, une communion complète entre la mère et le bébé in utero.
Oui.
Quand Alia va naître, elle sera en possession de toutes les mémoires de toute la lignée Atreides. Donc, non seulement les mémoires de Jessica, mais tout ce qui est venu avant. Ça sera quelqu'un, ça va être un bébé extrêmement puissant.
Ça va être un bébé extrêmement puissant. Et qui détient carrément la mémoire. En fait, c'est qui détient carrément la mémoire de la famille et du peuple.
Et du monde,
tout à fait.
Elle prend conscience du mélange génétique.
Oui.
Parce qu'elle est aussi, bon, sans vous révéler quoi que ce soit, cette lignée-là est corrompue par du sang Harkonnen, qui est le peuple oppresseur. Et ça aussi, c'est pour ça que je trouve que la thèse de Tristan Béra est d'autant plus stimulante, parce que ça aussi, ça devient très pesant sur Alia. D'être, comme tu dis, la conservatrice de la mémoire complète, et même que plus tard, c'est drôle parce que je suis en train de penser aux destinées de tout le monde tout d'un coup, Paul engendra une fusion avec un ver, sa conscience se séparera dans les derniers vers qui survivront une fois le spreading. Donc, même les vers qui sont les créateurs de ce spice mélange-là porteront en eux la conscience du seul homme à avoir, quote-unquote, un instinct féminin.
Oui.
Puis c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans Dune, on voit pratiquement, ben pas pratiquement, on voit unilatéralement des hommes qui se plantent.
C'est très vrai.
Le destin tragique est immense chez les hommes. Des femmes qui ont...
Mais qui ont une force et une puissance, qui ont à la fois une force et une puissance, une conscience, puis qui sont justement la détentrice, comme je le disais tout à l'heure, de la mémoire collective.
La mémoire, la puissance, la sagesse, l'intelligence, tout. Tout passe par les femmes.
Au contraire d'une certaine, si on parlait du côté spirituel, puis du côté christique de Jodorowsky, dans la religion catholique, c'est pas les femmes, ce sont les hommes qui ont cette puissance-là, ce charisme-là, cette sagesse-là. Et ici, dans l'œuvre de Dune, c'est complètement inversé. Ouais. C'est ce qui rend l'œuvre d'autant plus intéressante, parce qu'il y a à la fois cet héritage spirituel-là, qu'on peut faire des liens très justes, puis une avancée par rapport à la place des femmes.
Ben, c'est que s'il y a un homme dans Dune, c'est qu'essentiellement, il sert de... Je veux pas dire marionnette, là, parce que c'est trop convenu, mais il est la devanture. On met le gars en premier, puis on est comme... Regarde... Vas-y.
Pis, correct.
Dans le milieu, t'as un robot. Ben, en fait, pas un robot, mais Duncan Idaho vivra une énorme histoire où il se fera continuellement reproduire dans des bocals et sera toujours réactivé pour servir d'histoire, en fait, de livre d'histoire, pendant que les Bene Gesserit et les Honored Martres, je veux pas parler du musée l'idée, mais... Ce vouron de guerre immense dans les deux derniers livres. J'ai trouvé ça tellement fort, de finir le sixième livre, Chapter House Dune, par une lettre d'amour à sa femme qui vient de mourir. Puis ça, de sortir du propos du livre, c'est une postface émouvante et très, très, très sentie, parce que tu viens de finir un immense cycle de littérature, puis là, l'auteur s'assoit puis dit « Ma femme est décédée. » Il y a 4 ans, je pense.
Oui.
Juste avant pendant que je commençais celui-ci. Puis je vais vous raconter comment elle est décédée. Et l'emphase qu'il met sur les larmes, l'emphase qu'il met sur le toucher, toutes ces petites emphases-là que tu te rends compte que c'est via le toucher que se transmet beaucoup de la connaissance entre Jessica et Paul.
Et Paul.
La larme, qui est de l'eau que l'on ne doit pas gaspiller, mm-hmm, entre Paul et Chani.
Il y a tellement de liens émotifs qu'on peut faire entre la véritable histoire et Dune, et justement, c'en est effectivement très touchant. Puis c'est là, tu me le rappelles, ouais, parce que ça fait un bout que je l'ai lu, là, mais puis tu me le rappelles, puis effectivement, avec des yeux d'adulte, c'est d'autant plus prenant.
Il aimait beaucoup sa femme. Et sa femme et les femmes sont devenues une grande inspiration, sont une source de grande inspiration par rapport à Dune. Puis c'est, à mon avis, quasiment impossible de lire Dune sans cette espèce de garde féministe-là. C'est là, t'es comme baf. Il n'y a pas de « Ah, mais regardez comment c'est progressiste ici. » Puis tout, il n'y a pas d'excuse qui se fait dans le corpus. Tout est, à mon avis, très explicité.
Oui.
Puis c'est ce qu'il a fait, puis c'est un peu ça que tu disais. Toi, t'as l'impression que l'écriture de Dune a encouragé les femmes à écrire en science-fiction.
Oui. Ben oui, parce que dans le fin fond, c'est que ce que j'allais dire, c'est que je pensais à des influences plus ou moins évidentes et tout ça. Entre autres, parmi les influences que je vois qui sont les plus en littérature américaine, il y a Octavia Butler. Qui est une auteure afro-américaine qui a déjà évoqué justement son amour de Dune, puis dans son livre Parable of the Sower, Sower. C'est il y a clairement, en fait, c'est un livre post-apocalyptique où est-ce que justement il y a une certaine désertification puis qui manque d'eau et que là ils doivent se battre pour l'eau et l'histoire d'une fille de 12 ans qui justement combat dans cette planète, dans cet univers, dans cette ville-là qui est complètement détruite et tout ça. L'influence, elle a avoué elle-même, Butler, son influence par rapport à ça. Parmi les auteurs aussi dont je vois clairement la filiation, mais qui dans ce cas-là qui s'est pas nécessairement revendiqué de ça, il y a l'écrivaine québécoise Elisabeth Von Arburg, mm-hmm. qui a écrit, entre autres, qui a fait tout un cycle avec Tyrannaël et Le pays des mères, où est-ce que les femmes, justement, ont une importance marquée et avec une spiritualité aussi qui est justement menée par ces femmes-là, où est-ce qu'on peut faire le lien avec Dune de manière, ben, plus ou moins évidente, quand même.
Mais en même temps, c'est pas mal. Ben, en fait, je vais dire, c'est pas mal certains qui l'ont lu.
Ah, c'est sûr. Ben, Butler, elle l'a avoué elle-même, c'est un de ses livres préférés, puis elle l'a dit, oui. Dans le cas d'Octavia Butler, elle l'a écrit que c'était un de ses livres préférés, puis que ça a été une de ses grandes inspirations. Puis quand on voit Parable of the Sower, c'est assez évident. Là,
okay.
Le côté, justement, de la petite fille qui est seule, puis qui se joint avec certains autres contre cette ville qui est totalement inhabitable parce qu'il manque d'eau, parce qu'il manque de tout, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi dans la mouvance, tu sais, d'une conscience écologiste.
Absolument.
L'écologie qui commence à rentrer. C'est ça, tu sais, c'est une œuvre qui a un très grand leg, j'ai l'impression. Puis c'est un peu en introduction, je disais comme, il n'est pas disparu, il est comme invisible d'une. Bon, là, avec le documentaire, c'est sûr que ça a monté un tout petit peu. Mais on peut pas nier, c'est ça, 20 millions de copies, ça a été un immense succès. J'en parlais avec ma mère, puis elle me disait, ben oui, je me rappelle de l'avoir lu à l'époque quand c'est sorti, parce que tout le monde le lisait.
Oui.
Puis c'est surprenant comme phénomène littéraire, parce que, bon, à notre époque, d'une, c'est vraiment une poignée d'initiés. Je suis pas en train de dire que c'est un best kept secret ou un truc ultra cryptique, mais c'est pas quelque chose...
C'est pas le Seigneur des Anneaux.
Ouais, que les gens se revendiquent à ce point-là.
Absolument.
Des grands fans. L'affaire, c'est que, si tu me permets...
C'est correct.
Dune perdure dans l'inconscient collectif de façon très, très, très pernicieuse, si on peut le dire de cette manière-là. J'ai,
dans une œuvre que plusieurs auditeurs de Pop en Stock connaissent, entre autres.
C'est ça. C'est un objet d'étude pour plusieurs personnes dans notre collectif.
Oui.
C'est un objet de culture populaire que plusieurs, si pas la majorité, si pas tous nos auditeurs connaissent. Mais, je me suis amusé, je me suis fait un petit exercice, il y a déjà maintenant un mois, mais je l'ai pas fini tantôt. J'ai essayé de faire un synopsis. Puis c'est pour ça que c'est pour ça qu'on n'a pas fait un synopsis complet en début d'émission, parce que ce jeu-là est vraiment trop agréable. Je fais un synopsis rapide du premier livre de Dune et amusez-vous à dresser les parallèles là où il y en existe. Rapidement, l'histoire de Dune, c'est l'histoire de une maison où l'on transporte nos membres dans un nouveau royaume pour gérer les ressources pour le roi. Il y a beaucoup de pôles, j'ai pas été vraiment dans la lecture fleurie. L'histoire suit qu'une famille qui était auparavant responsable de ce royaume conspire pour renverser la nouvelle famille afin de reprendre le pouvoir sur ce royaume. Il y aura un coup d'État rendu possible par un traître auparavant loyal au roi. Ceci mènera à la mort du patriarche de la nouvelle famille installée. Un enfant réussira à quitter pour aller se cacher chez des guerriers, un peuple qui chasse les créatures autochtones, qui habite en hauteur pour se protéger du climat. La fille de la famille survivra, mais prêtera serment de vengeance. Elle deviendra un assassin qui jure de tuer tous ceux qui ont trahi sa famille. Elle a 10 ans. Le fils exilé, sujet d'une prophétie, unira les peuples après avoir consulté un nain stratège et mènera une guerre au-dessus d'un mur géant. C'est un peu ça qui est en train de se passer quand on a fait notre émission pour le début de la 6e saison de Game of Thrones. J'étais complètement pris dans cette idée-là que autant que Octavia Butler l'a annoncé, je trouve ça pratiquement criminel que George R. R. Martin n'a pas annoncé son affection pour Dune. on le sait, bon, évidemment, ces auteurs-là sont des grands lecteurs. Ils ont été puisés dans Regarder Rose, ils ont été puisés dans des textes qui sont des dynamiques très répandu.
Oui.
C'est pas crié au pastiche à ce point-ci. Je suis pas en train de dire qu'il y a de la mauvaise foi de la part de George R. R. Martin. Juste que je trouve ça extraordinaire que Dune, qui est une œuvre de science-fiction, perdure dans une œuvre de fantasy.
Absolument.
Ça, c'est remodelé de façon quasiment identique. Il y a une polyphonie. Il y a énormément. La structure des romans sont aussi par personnage.
Il y en a 6.
Oui, on s'en va à 7, mais...
C'est vrai.
Mais oui, si George R. R. Martin...
En tout cas.
Meurt demain, vous entendez? Ça va... oui, parce que c'est un peu... Ouais, OK. Non. Il y aura eu une belle hein? C'est Canfor. Salut, on est encore en nombre. OK. Je vais faire ma conclusion parce que là, les gens nous ont pas vus. Bonjour. J'ai complètement perdu l'idée. Le fait de que ce soit. Il y a eu persévérance de l'idée d'une.
Oui.
Excusez, on a eu un quiproquo avec le. Je peux pas faire à semblant que c'est pas arrivé. Les gens de Cannes Football Club viennent de rentrer parce que je suis pas à la régie, donc ils pensaient que c'était vide, mais je suis ici en train de faire ma conclusion. C'est un peu weird. On est très, très, très familier avec le canevas initial de Dune, là, je veux pas dire que ça continue. Et au-delà de ce synopsis bref-là, il y a tout au long de ma lecture, il y avait des trucs qui activaient de l'intertexte entre Game of Thrones, entre Dune et Game of Thrones. Je me retrouvais continuellement dans les visions de Paul qui apprend à Ride the Sandstorm, ou ce qui embarque, en fait, à l'usage d'un crochet, double crochet avec une corde, il est capable d'être transporté par ses grands vers. Je revoyais Daenerys Targaryen qui...
Qui faisait grosso modo la même chose.
Exactement. Là. Il y a aussi plusieurs usagers sur des forums comme Reddit et ainsi de suite qui se sont amusés à disséquer personnage par personnage.
Le fameux mur, juste ça.
Le murier, le nainier, les créatures, ils sont... C'est ça, il y a énormément de trucs qui sont familiers. Mais fondamentalement, la dynamique est la même. Puis c'est cette dynamique-là d'avoir... un empereur qui est capable d'assigner des familles à des royaumes et dire, bon, maintenant, toi, tu t'occupes de cette place-là et toi, tu t'occupes de cette place-là. C'est sûr que ça va créer du drame. Puis c'est ce que ça a fait dans Dune et dans Game of Thrones. T'as quand même pas le choix de te retrouver avec cette idée de familiarité-là. Mais, à mon avis, ça n'a pas assez exporté de gens vers Dune. Puis c'est pour ça que je mets l'emphase actuellement sur le fait que Game of Thrones est aussi similaire à Dune. C'est... Cette grande hiver-là, entre les romans, un échappatoire parfait. T'sais, c'est vraiment un très, très bon moment. T'sais, si on se console à dire qu'on écoute la télésérie pour voir un chemin alternatif à l'œuvre de R. Martin, ben regardez qu'est-ce que Weiss et Benioff peuvent en faire, ben vous pouvez totalement regarder Dune comme...
De totalement comme l'inspiration, mais pas une inspiration, mais comment dire... une certaine forme de genèse de cette structure-là.
Ou même dans le registre, c'est d'exporter la fantaisie. Oui. De dire, ben c'est pas la fantaisie, ici c'est la science-fiction.
Voilà comment ça pourrait se transposer dans une œuvre science-fictionnelle, puis de voir, tu sais, carrément une certaine forme de dialogue aussi avec ça.
Absolument, absolument. Il y a une dernière affaire que je voulais pas oublier de mentionner parce que Alexandre Poirier aurait définitivement parlé de ça s'il était venu. Le deuxième jeu de Dune, en fait, qui est sorti en 1992, est essentiellement le premier RTS. C'est un jeu vidéo qui a été très, très, très inspirant pour des trucs comme Command & Conquer, Warcraft et Age of Empires et les Starcraft. Dune est aussi à la base des... Ben, en fait, c'est pas le Dune de Frank Herbert, mais Dune a aussi inspiré une forme extrêmement populaire de jeux vidéo. Ouais. Et je conclue, en fait, sur deux trucs. En fait, je voulais finir en musique, soit en mettant Dune Spice Opera, mais on a déjà écouté quelque chose qui était similaire à ça. Ce qui est plus agréable pour conclure, c'est définitivement du Iron Maiden. Parce qu'il y a cette petite histoire-là. De l'album de 1983, Peace of Mind, la pièce To Tame a Land, qui avait comme titre initial, le titre de travail, c'était Dune. On voulait sortir une pièce de métal qui s'appelait Dune. On a demandé la permission
à Herbert.
À Herbert. En fait, Steve Harris a demandé. Et l'agent de Herbert lui est revenu. Il a dit nous déclinons, puisque Frank Herbert n'aime pas les bandes rock et particulièrement pas les bandes de heavy rock, et spécialement pas les bandes comme Iron Maiden. Donc, on va aller écouter ça en hommage. Je vais te remercier énormément de ta participation, Rachel.
Ça me fait plaisir, Jean-Michel.
On va aller écouter du Iron Maiden?
Écoute.
Yeah, To Tame a Lion.